au réseau Cogeco. Vous écoutez Mario Langlois, rencontre.
Ça mène, attention à la ligne d'arrivée. Voilà, Jacques Villeneuve qui passe et Villeneuve qui remporte le championnat du monde 1997 en terminant officiellement troisième.
Et un jeune pilote canadien va pouvoir s'élever au rang des plus grands de tous les temps, ceux qui ont marqué l'histoire de la Formule 1 et qui ont de plein droit leur nom inscrit au classement de l'histoire de la F1.
Moi, je fais juste réentendre.
Moi, déjà, je trouve le commentateur très calme.
Très calme.
Oui, ça manque un peu de punch.
Trop calme.
Par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui, oui, ça manque un peu de punch.
Mais sais-tu quoi? Dans le dernier tour, Häkkinen te dépasse et Coulthard te dépasse. Et Pierre Houd, le descripteur qu'on entend juste avant l'extrait, suggère, dit, est-ce un cadeau de Jacques? Parce qu'on s'attend tous à devoir finir premier. Tu mènes la course jusqu'au dernier tour.
Ben, je les ai pas vus revenir. J'étais tellement concentré sur terminer cette course parce que le choc dans l'accrochage avec Schumacher était vraiment fort, puissant. Et donc, je me doutais qu'il y avait quelque chose qui avait été plié un peu sur la voiture. Donc, je freinais tôt, j'évitais les vibreurs, j'accélérais pas fort. Donc, je les ai pas vus revenir. Quand je les ai vus quand j'ai vu qu'Häkkinen dans mes rétrovisseurs à trois virages de la fin, soit je me mettais à attaquer, je me battais contre lui, soit je le laissais passer. Après, quand j'ai vu Coulthard, lui, c'était un chum. Je dis, bon, de toute façon, je l'ai pas gagné la course. Donc, deuxième, troisième, c'est pas grave. Me laisser mon chum passer, ça va être le fun.
Donc, pas de cadeau à Häkkinen, même petit cadeau à Coulthard.
Une fois que j'ai plus la victoire, oui. Après, c'est deuxième, troisième, ça change pas grand chose.
Sur le coup, quand tu vois Häkkinen te dépasser, c'est sûr que tu sais que t'es champion du monde. Mais, je pense que c'est ça qu'on sent dans la description. Même les spectateurs, on était un peu déstabilisés momentanément.
Alors, je me fichais complètement de la victoire. La victoire de la course elle-même ne me traversait même pas l'esprit. Tout ce qui comptait ce jour-là, c'était le championnat.
Vraiment, puis on l'a senti. Et d'ailleurs, il faut revoir les images quand t'es au point de presse, là, quand t'es assis. Je pense, je sais pas combien de minutes et d'heures après la course, le niveau de concentration que ça exigeait. Et on faisait avant la pause le lien avec le fait que Gilles avait remporté des courses 78 et d'autres où il espérait que sa voiture tienne le coup. Comment tu le vivais, justement, tu sentais? Parce que le choc avec Schumacher, après l'avoir revu, Philippe, toi aussi, sûrement des centaines de fois, tu sais, je regarde ça, là, ça aurait pu être un accident bien plus grave que la collision qui s'est produite.
C'était supposé être un accident. On parlait un peu de chance tout à l'heure. Il faut avoir la chance de son bord parce que c'est le genre d'accrochage qui, 99 fois sur 100, se termine dans le clos.
Un roue dans roue.
Il a manqué son coup. Il a manqué son coup. C'est ça qui est incroyable.
Peux-tu nous faire revivre comment tu vis l'amorce de ton dépassement sur Schumacher en 1997, puis comment tu l'as préparé?
Mais ça s'est préparé tout au long de la course. Hein. J'ai fait toute la course derrière lui. Donc, j'étais capable de voir où il était fort, où il était lent, où est-ce que je pouvais faire la différence. Et au bout de cette longue ligne droite, c'était le seul gros freinage du circuit. Je freinais toujours peut-être 20 mètres plus tard que lui. À chaque fois. Et j'y arrivais tout proche en fin de freinage. Donc, je savais qu'il y aurait peut-être y avoir un moment avec une opportunité plus tard dans la course. Et là, ça s'est présenté après le deuxième aéropuis parce que lui, il a fait son pit stop deux tours avant moi. Et les pneus, à l'époque, il y avait une performance incroyable pendant deux tours et après, ça se stabilisait. Et moi, lorsque j'ai fait mon aéropuis, je suis sorti, j'étais peut-être à 4 secondes de lui, mais avec des gommes neuves. Donc, j'ai pu remonter. Et quand j'ai vu que j'ai remonté, je savais que le deuxième tour, c'était ma dernière chance de toute la course pour tenter le dépassement. Donc, le virage précédent, qui était un virage très rapide, là, je suis passé plus vite que d'habitude. J'ai même mis deux roues un peu à l'extérieur. Donc, une grosse prise de risque parce que je savais qu'il fallait que je me rapproche de lui de peut-être 1 ou 2 mètres par rapport aux autres tours. Et quand, dans la ligne droite, j'ai vu que j'étais ce 1 ou 2 mètres plus proche que lui, je savais que j'allais plonger. C'était décidé. Je savais que ce tour-là, j'allais plonger au moment de sauter sur les freins, mais il fallait que je le fasse quand lui avait déjà commencé à freiner, qu'il ne regardait plus dans les rétroviseurs.
Aimes-tu le fait que, quand on pense à la conquête de ton titre en 1997, que c'est associé à une manœuvre audacieuse, c'est-à-dire un dépassement? T'sais, pas,
t'sais, ben, sinon, ça aurait été un championnat banal. C'est comme la victoire d'Indianapolis. C'est la manière de gagner une grosse influence sur la qualité du championnat. Normalement, on devait gagner le championnat à Suzuka le week-end précédent parce que à Suzuka, j'avais 9 points d'avance et j'ai écopé d'une pénalité un peu discutable qui m'a disqualifié avant la course, qui m'a disqualifié pendant les essais libres parce qu'il y avait un drapeau jaune lorsqu'on sortait de la voie des stands et on est 6 pilotes à ne pas avoir ralenti. Et vu qu'il y avait quelque chose qui s'était passé plus tôt dans la saison, bien la décision était de me disqualifier de la course. Donc là, on a eu l'impression que les dés étaient un peu pipés. Et au lieu de gagner le championnat ce week-end-là, eh bien je repartais avec un point de retard. Mais là, ça aurait été un championnat banal.
Joanne, où étiez-vous en 97, en octobre 97, pour cette course?
Collé à mon écran télé.
Comment le viviez-vous à distance? Hein? Comment le viviez-vous?
Énormément de stress, parce que bon, on le voit, et puis quand on a suivi la course automobile, comme moi je l'ai fait pendant des années, on comprend quand même plus qu'en juste dilettante de ce qui se passe, et on sait tout ce qui s'est passé justement au Japon la semaine avant, et on commence à se dire, ah non, il faut faire attention, et comme Jean qui dit, ben une fois que le choc a été fait, là tu te dis, il faut que tout se passe bien, t'as la même crainte, t'as le même sentiment que lui qui est dans la voiture, sauf que toi t'es pas dans la voiture, donc t'es juste là assis devant ton écran télé à te dire, bon, faut que ça tienne.
Le souvenir de la collision?
Ah oui, tout à fait,
On était tous là, puis on était comme avec toi dans le bolide, mais...
La voiture devait pas terminer la course. Elle n'aurait pas dû terminer la course. Non, parce que le support de la batterie a lâché, a cassé, et la batterie ne tenait plus que par les fils électriques. Et ça, à 3-4 forces G dans les virages, c'était pas supposé tenir.
Ah, aïe. Mais on pense à toute la mise en scène, quand tu nous rappelles la pénalité au Japon, puis j'avais un petit peu oublié ça, Philippe. Puis en même temps, c'est peut-être une chance, je l'ai pas gagné au Japon.
Ah, mais tant mieux, parce que ça reste un championnat qui
a écrit l'histoire,
donc c'est très important. Oui, ça l'après-coup ne dérange pas, mais c'est comme un petit chien que tu mets dans un coin. Et quand t'es en anglais, on dit le underdog, je sais pas si ça se traduit en
français. Le négligé.
Non, pas négligé. Celui qui est pas supposé gagner, mais qui vient là pour battre les grands. C'est un peu ça. Eh bien, généralement, c'est comme ça on performe le mieux, donc... Tant mieux, c'est devenu un moment poignant comme la victoire d'Indianapolis, comme tous les grands moments.
Un grand moment du sport automobile canadien, Philippe Lagu.
Et comment? Moi, j'ai vécu ça dans le salon de quelqu'un que vous connaissez tous à cette table, je pense. On était chez Gilles Boursier, qui couvrait le sport automobile pour le journal La Presse à l'époque. Sauf que La Presse, cette année-là, avait décidé d'alterner parmi ses journalistes là, pour la couverture des Grands Prix. Donc, Gilles ne les couvrait pas tous. Des fois, c'était Régent Tremblay, des fois, c'était Philippe Quentin. Alors, cette fois-là, on était chez Gilles. Puis, tu sais, ça, évidemment, ça se décide en début de saison. Donc, même si la course, le championnat se jouait là, la presse, là, les billets d'avion, puis ça, c'était déjà tout réglé. Alors, on ne pouvait pas envoyer Gilles Boursier.
On n'achetait pas des billets d'avion sur Internet à l'époque, en dernière minute.
Oui, c'est ça, exactement. Bon. Donc, on est chez Gilles. Bon, on est une grosse gang là, dans le salon de Gilles. Je me souviens, écoute, il y avait deux téléviseurs, un à côté de l'autre. Pour que, tu sais, ceux qui étaient un petit peu plus à gauche, là, puis voyaient moins bien, là, ben, on avait mis un autre, là, puis en tout cas, bref, c'était vraiment à la bonne franquette. Mais quand les deux...
Mais ça provoquait toutes sortes de rendez-vous. Écoute, il y avait partout au Québec des restaurants de déjeuner, parce qu'évidemment, en Europe, je veux dire, c'était comme vraiment spécial. On était habitué d'avoir ces rassemblements-là en soirée autour du hockey, mais la course, cette course-là et bien d'autres avaient rassemblé le Québec et bien au-delà.
Oui. Puis quand les deux voitures se sont touchées, on devait être au moins entre 15 et 20 personnes dans le salon chez Gilles Boursier. Écoute, c'est comme si on avait été une centaine. Tout le monde s'est levé dans le salon, et là, t'as entendu des hurlements, là. Parce que là, nous autres, on était tous furieux contre la manœuvre de Schumacher. Et on était certains qu'il ferait ça. On était tous des fans de Formule 1.
Un bon film. Un bon méchant.
Ben, il y avait un bon film. Mais vraiment. Puis on savait qu'il avait fait ça en 94. Il avait fait ça trois ans avant à Damon Hill, en Australie. Et là, il refait la même affaire. Écoute, ça a crié dans ce salon-là, le toit a levé.
Et d'ailleurs, je me demandais encore, je pense pas te l'avoir demandé l'an passé, Jacques, mais est-ce que Schumacher est encore en bordure de piste quand tu reviens le tour suivant?
Oui.
As-tu un regard, le regard?
Oui, il est debout sur le mur. Et il me regarde et je sais pas si c'est l'imagination, mais pour la première fois, j'ai vu un Schumacher qui est fatigué avec de la transpiration alors qu'il ne transpirait jamais. Donc, ça a été un moment difficile, cette course-là, pour lui. Et on le voit, il a perdu ses moyens parce qu'il n'aurait jamais dû rester tanké dans le sable. Quand il s'est sorti, il est parti tout droit, il aurait dû juste mettre du gaz et ressortir. Tout le monde le faisait. Mais là, il a un peu perdu ses moyens, il s'est emmêlé les pinceaux et il s'est coincé dans le sable. Donc, c'est hallucinant. Et sa manœuvre, c'était dommage pour lui parce qu'il aurait peut-être pu me dépasser après s'il avait pas tenté cette manœuvre-là. Donc,
il sentait quelque chose lui glisser
entre
les mains?
Je pense que sa personnalité a pris le dessus. Il s'était dit de pas faire une chose comme ça parce que ça faisait un mois qu'on en parlait dans les médias. La FIA avait dit que si un pilote faisait ça, il allait être disqualifié et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'en avais parlé aussi fortement.
Tu voulais préparer le terrain.
Oui, et pour lui mettre de la pression. Parce que quelqu'un sous pression ou qui commence à réagir contre sa nature va commencer à faire des erreurs. Et c'est ce qui s'est passé.
Est-ce qu'il t'en mettait beaucoup, lui, de pression, de façon à faire la même chose que tu tentais de faire? Tu sentais-tu qu'il y avait une guerre psychologique?
C'est pas un jeu qui fonctionnait avec moi, ça. C'est, dans ces jeux-là, non, ça n'a jamais très bien fonctionné.
Mais ça devait être... As-tu vécu un sentiment de satisfaction de le voir en bordure de piste?
Ah ben oui, ben oui, parce que c'est... il s'était pris à son propre piège. Tu sais, il y a ce côté un peu de justice. Et qui Gilles était comme ça, hein, très justicier, on va dire, très respectueux. Et c'était l'opposé de Schumacher. Donc, de voir l'anti-justicier...
Le méchant,
Oui, oui, OK.
Il veut pas le dire, nous autres, on le dit. Il veut pas que ça sorte de sa bouche.
Non, mais dans cette situation, oui, puisque je me battais contre lui. Donc, de le voir payer le prix de ses manœuvres, c'était comme une justice rendue.
Je ne crois pas avoir tort. Je pense que tu m'en as déjà parlé, mais juste avant la prochaine pause, tu sais, il y a eu une telle rivalité entre toi et Schumacher, une rivalité dont on parle encore. Est-ce tort de penser que tu as quand même du respect pour le pilote qu'il était?
Beaucoup. C'était un pilote qui ne lâchait rien, qui était hyper vite. Si on regarde les pilotes d'aujourd'hui, on a l'impression qu'il était même pas mal propre sur la piste, Schumacher, parce que quand on voit ce qui se passe sur les pistes d'aujourd'hui, le respect n'existe pas. Je pense que ça n'a pas fait partie de l'éducation de tous ces pilotes-là. Mais c'était le premier à piloter de la sorte. Donc, à l'époque, c'était très marquant et pas en positif.
On va s'arrêter le temps d'une pause et on revient pour la conclusion de cette émission spéciale avec Joanne, Jacques et Philippe Lagu. On vient tout de suite.